Le petit âge de la grande histoire par Sébastien Joannol. Bonjour Sébastien.
Bonjour Myriam. Aujourd'hui, premier numéro de Petit H où l'on revient ensemble sur l'histoire des personnages historiques peu connus ou ici mal connus. Il est présenté comme un ancêtre des Français, le Gaulois le plus connu, notamment pour avoir tenu tête à Jules César lors de la guerre des Gaules. Je parle bien évidemment de Vercingétorix.
Que sait-on réellement de ce personnage emblématique de l'histoire de France ?
Eh bien, déjà, le terme « ancêtre des Français » ou « gaulois » est ici un terme erroné, puisque les tribus gauloises n'étaient connectées que par des échanges religieux et commerciaux. Ils ont vécu sur l'actuelle France, bien sûr, mais aussi l'actuel Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Suisse, etc. Pour revenir à la question, à vrai dire, on ne sait pas grand-chose de ce chef gaulois. Hormis qu'il est né aux environs de 82 avant Jésus-Christ, qu'il est le fils de Celtios, un chef de tribu arverne, l'actuelle région clermontoise. D'ailleurs, je l'appelais Vercingétorix. Or, on ignore si ce terme désigne son nom ou un titre. Selon certaines traductions, Vercingétorix signifie le grand chef de l'armée, ou le grand chef des guerriers. La traduction est incertaine. Et si Vercingétorix est un titre et non son nom, on ignore quel était son seul patronyme. Pour simplifier, vous m'excuserez, on l'appellera Vercingétorix tout au long de cette chronique.
Avant de revenir sur son histoire, peux-tu nous résumer le contexte ?
Bon, rapidement, la guerre des Gaules, du moins ce que nous en savons, est une série de campagnes militaires menées par le proconsul Jules César. Et j'insiste sur le terme de proconsul car, pour votre information, Jules César n'a jamais été empereur mais bien proconsul. Cette guerre dure de -58 à -51 avant Jésus-Christ et mène à l'expansion de la République romaine sur toute la Gaule. Et encore une fois, j'insiste sur République puisque l'Empire romain ne commence qu'en 27 avant Jésus-Christ.
Quel est le rôle de ce chef gaulois durant ce conflit ?
Le rôle de Vercingétorix dans ce conflit ne commence qu'en -53 avant Jésus-Christ. Cependant, nous savons que notre gaulois et le proconsul romain se connaissaient avant le conflit. En effet, ils se sont connus entre -58 et -52 avant Jésus-Christ. Mais nous ignorons comment. En réalité, deux situations sont possibles. La première, la moins probable, Vercingétorix aurait été un otage livré par sa tribu pour se soumettre à la République romaine, ce qui arrivait très souvent à cette époque. Mais pour un fils de chef de tribu, cette hypothèse reste, comment dire, peu probable. La deuxième l'est beaucoup plus. En effet, son génie militaire nous laisse penser qu'il aurait fait partie des états généraux de Jules César, et même qu'il aurait été un conturbanalis, c'est-à-dire un compagnon de tente du proconsul. Cette hypothèse est plus probable, car Vercingétorix n'est pas un chef de fortune choisi par des Gaulois sur un coup de tête au dernier moment, mais bien un génie militaire et politique, qui connaît et applique les tactiques romaines, comme la tactique de la terre brûlée, inventée par un Romain, ou l'installation des camps militaires, chose que les Gaulois, avant lui, ne savaient pas faire. Je ne vous ferai pas un exposé de toutes ces conquêtes militaires, comme le siège de Gergovie, l'unification des tribus gauloises, sa nomination à Bibracte comme chef des Gaulois, ou encore ses ambitions de faire de la Gaule un grand empire et d'écraser Rome, comme Brennus, autre chef gaulois, l'a fait 4 siècles avant lui. On aura peut-être l'occasion de revenir sur son histoire dans un prochain numéro. Et tout cela aurait été possible sans un revers de sa cavalerie avant le siège d'Alésia.
Que s'est-il passé avant le siège ?
Suite à sa défaite humiliante à Gergovie, Jules César doit rentrer avec ses troupes à Rome. Mais notre vaillant chef gaulois sait que César reviendra plus fort. Il demande alors à sa cavalerie de 15 000 hommes de détruire les chariots et les bagages romains. Technique intéressante puisque la colonne romaine défait de ses bagages sera condamné. Mais César peut remercier les Germains qui lui ont sauvé la vie. En effet, il est bien tombé dans le piège du Gaulois, mais Vercingétorix n'avait pas prévu que la cavalerie germaine viendrait au secours du proconsul. Une légende raconte d'ailleurs que, lors de cette bataille, la cavalerie gauloise n'a pas perdu car elle était défaillante, mais bien sur un gage que les cavaliers gaulois se seraient donnés entre eux. En effet, arrivé à proximité de la colonne romaine, ces derniers se seraient donnés pour objectif, non pas de détruire l'armée romaine, comme le plan l'indiquait, mais de la traverser 3 fois, dans le seul et unique but de s'amuser. Si cette légende est vraie, on comprend mieux la défaite gauloise. Quoi qu'il en soit, César parvient donc à battre la cavalerie gauloise et attaque son armée, qui se réfugie à Alésia, et commence alors un long siège qui, comme vous le savez, se joue sur la 4e bataille. Cette bataille voit s'affronter 300 000 Gaulois face à 80 000 Romains, en surnombre mais trahis par les Éduains, une tribu gauloise, qui n'ont pas respecté le plan de bataille, Vercingétorix doit se rendre. Il sera fait prisonnier et meurt quelques années plus tard dans les prisons romaines. Et si Vercingétorix avait gagné avec ses cavaliers, que serait-il devenu? C'est la question que je vous pose aujourd'hui, mais avec des si on ne mettrait pas Paris en bouteille, mais bien Lutèce en amphore. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Petit H, où l'on reviendra ensemble sur l'histoire de la dernière reine d'Égypte, pourtant pas si égyptienne. Je parle bien évidemment de Cléopâtre. Mais avant ça, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux on-podcast3 sur Twitter et on.podcast sur Instagram et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Vous venez d'écouter un podcast inédit d'On Podcast par On Production. Pour en écouter encore plus, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee.